France Culture, il est tout juste midi et on commence cette grande table avec les titres d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. L'armée syrienne annonce le déclenchement d'une offensive majeure sur les quartiers rebelles d'Alep. Des avions syriens et russes bombardent intensivement depuis maintenant 48 heures la partie rebelle donc de la ville qui échappe à son contrôle depuis 2012, suivie de la situation avec Valérie Crova. Le nombre de mineurs signalés comme radicalisés en France, le Figaro avance le chiffre de près de 2000 et parle d'une augmentation de 121% depuis le dernier recensement en janvier dernier. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, évalue lui à 600 le nombre d'adolescents qui font l'objet d'un suivi pour présenter des signes de radicalisation. Et c'est Antoine Naret qui nous expliquera la différence entre ces chiffres tout à l'heure. La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, annonce dans une interview aux Échos un quasi-retour à l'équilibre du régime général de la sécurité sociale l'an prochain. Le régime général, maladie, retraite, famille, accident du travail, qui affichait 17,4 milliards de déficit en 2011, sera, dit-elle, de 400 millions donc proche de l'équilibre en 2017. L'Inde et la France signent la vente à New Delhi de 36 avions de chasse Rafale du constructeur Dassault pour près de 8 milliards d'euros ce matin. Et puis le groupe Internet Yahoo qui annonce avoir été victime à la fin de l'année 2014 d'une attaque informatique massive perpétrée par une entité probablement, dit-il, liée à un État qui aurait affecté 500 millions de comptes de ses utilisateurs. Enquête avec Louis Belenfant. L'invité de la séquence interview tout à l'heure, Laure Mandeville, journaliste au Figaro, auteur de « Qui est vraiment Donald Trump ?». On aura donc la réponse tout à l'heure aux éditions des Équateurs. Voilà pour les titres. Olivia Jasbert, La Grande Table.
Merci beaucoup Antoine Mercier. On vous retrouve à midi et demi pour développer ces titres. Ce sera le journal La Grande Table, première partie. C'est parti. Bonjour à tous. Comme un vendredi, on prend le parti d'en rire après avoir exploré une des facettes de notre mal-être. Au revoir, tristesse. À partir de 12h55, nous recevons le philosophe et comédien Yves Cusset pour son joyeux essai sur le rire, publié actuellement chez Flammarion. Qu'est-ce que le rire a à dire de la philosophie et à la philosophie et inversement? Nous y reviendrons donc dans la deuxième partie de cette grande table. Mais d'abord, S'émouvoir, un roman sur la jeunesse presque initiatique, The Girls, signée Emma Klein, jeune romancière américaine, qui revient à sa manière sur l'affaire Charles Manson. Troublant, vous allez voir. Bienvenue, on est vendredi et on est ensemble jusqu'à 13h30.
La Grande Table. Olivia Jasbert.
Une nuit d'été, nous sommes en 1969. Sharon Tate, la femme de Roman Polanski, enceinte de 8 mois, et 4 de ses amis sont tués dans une villa de Los Angeles par un groupe de jeunes hippies, un garçon, 3 filles qui pousseront l'horreur, le crime, jusqu'à s'y complaire. Une virée sanglante, commanditée par Charles Manson. Le gourou, c'est lui, ce trentenaire illuminé qui avait constitué autour de sa personne tutélaire une famille qui vit en communauté dans un ranch de la Vallée de la Mort. Il recrute durant les Summers of Love. L'heure américaine est à la fête, psychédélique, façon piste and love. Mais eux se sentent en guerre, alors ils tuent sauvagement, mort au porc, death to pigs, révolution, signent-ils sur les murs, parfois avec le sang de leurs victimes. Le français Simon Liberati, en cette rentrée, en a fait California Girls, où il passe la violence au crible. L'américaine Emma Klein, un premier roman sobrement intitulé The Girls, où elles sondent les affres de l'adolescence. Emma Klein est notre invitée, bonjour à vous.
Bonjour.
Et votre voix française, FDR, bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être là. Après être passée par le programme d'écriture de la prestigieuse Columbia University, après avoir été lectrice au département des fictions du New Yorkers, vous êtes une romancière américaine, californienne même de 27 ans, Emma Klein, et vous écrivez actuellement votre second roman. Peut-être même qu'il est déjà terminé.
I'm not finished with it, but
non,
I'm in
je
the
n'ai
middle
pas encore
of that
terminé,
in a book of short stories.
Mais ce sera un livre avec des nouvelles.
Quelle pression il va falloir pour vous frapper aussi fort qu'avec le premier. Il paraît que de l'autre côté de l'Atlantique, certains envieux espèrent déjà vous voir tomber de votre piédestal. On appelle ça le syndrome « too young, too pretty, too successful ». Il vous atteint pas?
I really try to stay as separate from that as possible.
J'essaie de me détacher de tout ça dans la mesure du possible. Ce qui est important pour moi, c'est d'écrire. Et ça, je me sentirais obligée d'écrire même si personne ne me lisait.
Et comment on fait pour se détacher du succès?
Quand je suis chez moi aux États-Unis, je n'ai pas de téléphone mobile, donc je ne surfe pratiquement pas sur le net. Je m'en tiens éloignée. Et je sais que ce qu'il m'est arrivé de positif ou de négatif autour de tout ça, eh bien, je me persuade que ça ne me concerne pas directement.
Emma Klein, en Californie, d'où vous venez, est-ce que cette série de meurtres attribués, commandités par Charles Manson, a marqué les esprits? Est-ce qu'on continue à en parler aujourd'hui, de génération en génération?
Oui, absolument. Je crois que c'est profondément enraciné dans l'inconscient culturel de la Californie.
À partir de quoi? Pourquoi? Pourquoi cette affaire a traumatisé la Californie?
Parce que je crois que ça symbolisait vraiment la perte de l'innocence, et ce, à une échelle gigantesque, à l'échelle de la nation tout entière. Mes parents, quand ils évoquent cette histoire, eh bien, ça a été la prise de conscience du fait qu'on n'était plus en sécurité, y compris chez soi, alors que la maison, le foyer, représentait le nid douillet où on était en sécurité. Ça a été une grande violation.
Quelque part, oui, c'était un peu la fin d'une époque, cette affaire, hein, celle de vos parents.
Right, very much so. And I think that's why we're still engaged with it. It's almost on that symbolic level.
Je crois que c'est pour ça qu'on continue de parler de cette affaire, qu'elle continue de remuer les gens parce qu'elle avait une charge symbolique si forte.
Et comment vous en avez entendu parler, ou comment vous l'avez saisie, appréhendée, cette affaire, à travers les médias, à travers des livres, à travers la musique?
Essentiellement par la bouche de mes parents, qui avaient grandi eux-mêmes en Californie. Et puis quand je suis devenue adulte, j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces filles, ces jeunes filles qui faisaient partie de la famille. Je me suis dit, mais quel est le lien entre ces filles sulfureuses et la jeune fille ordinaire?
Alors, il y a des livres, beaucoup, qui ont été écrits sur ce sujet, et notamment celui de l'ancien procureur qui avait instruit cette affaire, Vincent Bugliosi, qui a été traduit, ouvrage traduit en français, Charles Manson, la tuerie d'Hollywood, c'était paru en 2002 chez Michel Lafon. Vous n'avez pas choisi de faire l'autopsie de ce fait divers, ni de raconter le passage à l'acte, vraiment, mais plutôt le portrait d'une jeunesse perdue, le portrait de ses filles, et surtout une qui faisait partie de cette famille Manson. Pourquoi?
Right. For me, it wasn't interesting to retread the details of a case which everyone
moi,
is very familiar.
Pour moi, ça ne m'intéressait pas de rentrer dans les détails de l'affaire. D'ailleurs, tout le monde les connaît.
I really wanted to think about it from a different perspective.
Et je voulais y réfléchir sous un angle neuf, différent. Et puis je me suis demandé si j'arriverais à écrire un livre où ce meurtre serait en fait l'événement le moins important du roman. J'ai voulu plutôt axer mon livre sur cette initiation et cette perte d'innocence pour la jeune fille.
Comment vous les définiriez au plus près, ces filles américaines, vos girls, Emma Klein?
I think they're very vulnerable.
Je crois qu'elles sont extrêmement vulnérables. En fait, elles sont les victimes d'un système de société qui leur donne très peu d'autonomie, notamment l'autonomie sur leur propre corps. Elles ne l'ont pas du tout.
Votre héroïne est la narratrice. Elle n'a pas directement pris part au meurtre. Elle raconte surtout, des années plus tard, sa perception qu'elle a eue de ces années-là, ce désenchantement. Elle essaye de comprendre ce qui a pu basculer, notamment dans sa vie. Et puis il y a toute une partie où elle est jeune, où on comprend l'attirance qu'elle a pu avoir. Alors non pas d'ailleurs en premier lieu sous votre plume pour cet homme, ce gourou, dont vous avez changé le nom d'ailleurs, qui s'appelle Russell dans votre roman, mais pour cette bande de filles qui semble libérée de tout.
And I really liked recentering the narrative.
Oui, je crois que ça m'a plu de recentrer le récit, de sorte que l'accent n'est plus mis sur le personnage de Russell, mais plutôt sur l'amitié, l'amitié très romantique de ces jeunes filles. Et pour Evie, la narratrice, l'héroïne, ben je crois que ça aura été l'été le plus éclatant de sa vie, en un sens, le plus coloré. Mais elle se dit que, bon, après ce récit, il faudrait pouvoir en sortir, dépasser cette histoire, mais on voit au fil du roman que la narratrice n'est jamais sortie de ce moment-là. Elle ne l'a pas analysé complètement, elle ne s'en est pas libérée.
Ce qui est éclatant dans cet été, entre guillemets, c'est de pouvoir se soustraire à l'autorité parentale et à se soustraire aussi de l'autorité des adultes. C'est aussi pour ça qu'elle est si attirée par cette amie, Suzanne, cette fille totalement libre, qui est une sorte de Suzanne Atkins, hein, qui était, dite Sadi, elle, vraiment une des filles Manson dans l'affaire. Et McLean, comme elle, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a toutes à la fois besoin de se soustraire de cette autorité aujourd'hui encore, mais en même temps toutes besoin d'être vues? Est-ce que notre faiblesse réside pas, pour vous, dans notre besoin d'exister dans le regard de l'autre, ce besoin de reconnaissance?
Right, very much so, and I feel like that's a lot of what drives
cela.
The book is that desire to be seen, to
et
be
ça,
known.
Et ça court dans tout le livre, ce besoin désespéré d'être vu, d'être remarqué, d'être connu. L'adolescence, c'est vraiment un moment très difficile. On quitte le berceau du nid douillet, puis on se lance dans la vie, dans le vrai monde. On fait des expériences. Alors là, évidemment, c'est un peu le scénario du pire, puisque Evie tombe sur la personne la plus amère. Même de manipuler avec les dessins les plus noirs cette envie désespérée qu'elle a d'être reconnue.
Et en même temps, c'est presque une leçon de philosophie, parce que on comprend sous votre plume à vous lire que vivre dans l'instant, c'est d'abord ne plus avoir peur de rien.
Living in the present is not to be afraid of anything, right?
Yeah, and I think I was really interested in also what is the rot under the surface.
Oui, et puis ce que j'ai voulu creuser aussi, c'est de voir tout ce qu'il y a de sombre et de pourri sous la surface des choses, notamment lorsqu'on parle de famille, d'amitié, de sexe. J'ai voulu creuser, oui, ce qu'il y a en dessous.
Et alors, comment fait-on pour une romancière comme vous, pour prendre au sérieux ces jeunes femmes, prendre au sérieux toutes ces émotions, ces sentiments, sans donner du crédit au final à leur acte monstrueux?
Yeah, I think for me it was really important to engage with teenage characters in a way that
pour moi, c'était de dresser le portrait de ces adolescentes qui sont devenus des symboles. Donc j'ai voulu effectivement les traiter sérieusement. Mais je ne crois pas par ailleurs que ce soit le rôle d'un romancier de justifier une attitude ou une autre, tel ou tel acte. Non, ce n'est pas ce que je m'étais fixé comme objectif. Ce qui m'intéressait, c'était de dépeindre ces personnes et ces jeunes filles dans leur vérité.
Pas justifier, mais comprendre peut-être quand même.
Right. Yeah, and I think that's also a choice I made to tell the story from.
Oui, et ça c'est un choix délibéré que j'ai fait. J'ai voulu raconter cette histoire par la bouche de quelqu'un qui assiste quand même en spectateur, parce qu'Evie ne va pas jusqu'au bout de cette aventure sordide, terrifiante. Elle reste à la marge et elle est observatrice.
Et alors, vous aviez, vous, 10 ans, Emma Klein, 10 ans de plus que votre héroïne, vous avez aujourd'hui 10 ans de plus que votre héroïne, Evie Boyd, quand vous avez choisi d'écrire ce roman. Par quel chemin, par quel méandre êtes-vous passé pour essayer de la comprendre, justement?
Je me suis replongée dans mes sensations, ce que je ressentais quand j'étais adolescente. Je me suis rappelée ce côté très extrême des émotions qui s'emparent de nous. Et voilà pourquoi, pour les adolescents, c'est très difficile de remettre les choses dans le contexte, de prendre du recul. Mais en même temps, les ados, eh bien, ont des idéaux extrêmement purs.
And that's why I had an older narrator, because that's allowed me to contextualize.
Et voilà pourquoi je fais figurer après Evie à l'aube de la vieillesse pour prendre ce petit recul.
Parce que c'est le propre aussi de l'adolescence, on est quelque part quand même toujours un peu en dehors de soi. Avoir 14 ans à 40 ans d'écart, est-ce qu'on peut se comprendre, trouver des similitudes malgré le changement d'époque ?
I thought a lot about what is that universal experience. Is there something?
Oui, d'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi à ce que ça pouvait être cette expérience universelle de l'adolescence.
And for me, it really goes back to that desire to be seen.
Et je crois qu'on peut tout faire remonter à ce désir d'être vu. Ça reste une caractéristique universelle et à toutes les époques.
Logistics of that change, like I think social media is an.
Alors bien sûr, la logistique autour change. Par exemple, les réseaux sociaux, et bien c'est une littéralisation intéressante de ce désir forcené d'être vu.
L'histoire d'Evie Boyd, une histoire intemporelle et universelle. Le roman The Girls est signé Emma Klein. France Culture, il est 12h15.
J'entends la brise dans les arbres. Je vois ces avions à hélice qui nous narguent. Des roses qui s'élancent, que tu coupes à l'automne. J'entends ton cœur qui bat.
Si loin, le duo pop électro d'Aix-en-Provence, Andromakers, Nadège et Lucie seront demain à l'honneur du festival Mars Attack qui s'ouvre ce soir à Marseille avec une programmation très féminine. Direction La Friche de la Belle de Mai si vous souhaitez assister à leur concert demain soir.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Avec la romancière américaine Emma Klein pour son roman The Girls qui vient de The Girls avec un S qui vient de paraître aux éditions de la Table Ronde. Et si on en lisait un extrait d'ailleurs pour vous comprendre, vous entendre un peu Emma Klein. Pauvre Sacha, pauvre fille, le monde les engraisse avec des promesses d'amour. Elles en ont terriblement besoin et la plupart d'entre elles en auront si peu. Les chansons pop à l'eau de rose, les robes décrites comme les catalogues avec des mots comme coucher de soleil et Paris. Puis on leur arrache leurs rêves de manière si violente. La main qui tire sur les boutons du jean, personne ne regarde l'homme qui crie après sa petite amie dans le bus. Ma tristesse envers Sacha me nouait la gorge. Emma Klein. C'est une histoire intemporelle et c'est une histoire universelle, on le disait, une histoire d'adolescence que vous racontez dans ce roman The Girls. À travers le personnage de Sacha, des années plus tard, Evie réalise que rien n'a changé quelque part, que l'amour reste une illusion pour laquelle chacune d'entre nous semble quand même prête à abdiquer l'essentiel, c'est-à-dire sa liberté. Est-ce qu'il faut pour autant faire de l'amour un sentiment dont il faudrait se méfier ?
We should be distrustful.
No, of course not. But I think it's worth examining.
Non, quand même pas. Mais je crois que ça vaut la peine de regarder de près tous ces récits dont on farcit les jeunes, les garçons comme les filles, sur l'amour de l'autre et comment on emballe ça, comment on le présente.
Lesquels vous ont marqué, vous, dans ces récits?
I think for young girls especially, there's the sense
pour les jeunes filles notamment.
That you're waiting.
On leur inculque le fait qu'elles attendent, qu'elles dépendent d'autrui, qu'elles ne sont pas les propres actrices de leur vie, qu'elles ne sont pas les héroïnes, les protagonistes. On leur apprend à être passives et tout cela, d'ailleurs, ça se traduit dans tout le langage qui entoure l'amour et tout ce qu'il y a de romantique en principe dans l'amour.
Mais ça, c'est la publicité, c'est la télévision, c'est parfois le cinéma, les séries. Est-ce qu'on peut trouver refuge, du coup, dans la littérature ?
Oui, c'est vrai que tout ce langage abonde dans les médias. On en est inondé. Il y a des tas de chansons, d'émissions de télé qui nous apprennent, enfin, ou qui nous disent comment il faut regarder les jeunes filles. Mais personne ne nous dit comment être cette jeune fille, cette adolescente. Et je crois que ça aliène beaucoup de gens. Ce discours. Et en effet, la littérature peut constituer un refuge. Du moins une littérature qui rend aux personnages féminins toute leur humanité.
Dans ce mal-être adolescent, vous racontez bien aussi les mécanismes de la domination, mais aussi de la domination masculine, pas uniquement, mais de tout ce qui peut à un moment intervenir sur notre conscience ou ce que l'on pense être à cet âge-là notre libre arbitre. Comment vous les décririez aujourd'hui, ces mécanismes de domination ?
Dans l'univers de mon livre, je dépeins une culture dominée par les hommes. Tous les personnages féminins gravitent autour, les admirent. Mais ce qui était important pour moi, c'était justement de mettre à bas toute cette mythologie du personnage masculin. Et à la fin du livre, eh bien, ils se révèlent comme des êtres très décevants, des hommes tout à fait ordinaires.
Et d'ailleurs, la psychologie, la folie de ce gourou, Charles Manson, dans les faits, Russell, dans votre roman, elle ne vous intéressait pas plus que ça ?
Non, en effet, parce que ce personnage, c'est vraiment devenu un cliché. Et moi, en tant que romancière, je n'avais plus rien à creuser ou plus rien à dire d'intéressant sur ce cliché. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de réfléchir à la manière dont, en fait, ce personnage censé être charismatique est ordinaire, pathétique, vulnérable et sordide.
Mais peut faire beaucoup de dégâts. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'on revisite éternellement cette histoire de Charles Manson. C'est aussi la manière dont il a réussi à prendre le contrôle des esprits de cette jeunesse qui l'entourait. On retrouve ça un peu aujourd'hui dans des phénomènes de radicalisation. Notamment, on parle beaucoup des phénomènes de radicalisation liés au djihad. Mais on voit qu'il y a une emprise, un phénomène de contrôle qui est assez similaire que dans les sectes ou dans cette affaire Manson.
Yeah, absolutely. And I think for me,
vous avez raison, oui. Et ce qui m'a fascinée personnellement dans l'affaire Manson, c'est que cette violence était le fait de femmes, de jeunes femmes. On a tellement l'habitude de la violence exprimée par un homme, c'est choquant, mais ça devient courant, on s'y habitue. Or, ça continue de nous mettre mal à l'aise, cette violence qui se déchaîne chez des femmes. Et justement, parce qu'on inculque aux femmes à retourner la violence contre elles-mêmes et ne pas l'exprimer à l'extérieur dans la société. Alors elles se font du mal, elles deviennent anorexiques, elles se privent de manger. Toute cette violence exercée contre les femmes. Mais cet éclat de violence, de la part encore une fois d'une jeune fille, ben oui, conserve tout son pouvoir de fascination encore aujourd'hui.
Et après avoir travaillé sur la psyché de cette jeune fille, de cette Evie Boyd, de votre héroïne, vous avez le sentiment que les femmes ou les filles sont des hommes ou des garçons comme les autres ?
That's a French expression. Are they like boys? I mean, are they not equal? Are they considered
as ordinary boys? Yes, of course. I mean, I think everyone is a human first, and then.
Bon, mais chacun est humain avant tout, avant d'être connoté par son genre, par son sexe. Mais je suis frappée par les différences structurelles qui demeurent. Et non, ils ne sont pas encore égaux. On n'éduque pas les filles comme on éduque les garçons.
Alors, vous avez participé, Emma Klein, à ce programme d'écriture de l'Université de Columbia. Est-ce que c'est là que vous avez appris à écrire comme vous écrivez aujourd'hui? Ou est-ce que vous pensez que cette plume était là, en vous, bien avant? C'est intéressant quand même, voire intriguant pour nous les Français, cette fabrique du roman, cette fabrique de l'écriture.
Non, je ne pense pas que j'ai appris l'écriture ni acquis mon style. Pour moi, ce style d'écriture, c'était mon expression naturelle. Je le possédais avant. Mais ce qui m'a aidé avec ces ateliers d'écriture, c'est qu'on a des lecteurs. On est obligé de se colter avec cette réalité. Quelqu'un va lire ce que vous écrivez. Et ça, ça vous aide à éclaircir vos idées et puis ça vous pousse à donner un rythme à ce que vous écrivez.
Est-ce que ça aide aussi à construire les récits?
Does it help to build your the structure of your novels and narratives?
I think it's just more, you know, if you're writing and you're the only one reading it, you can project.
Si vous écrivez et que vous êtes la seule à vous lire, vous pouvez projeter un tas de trucs dans votre travail. Mais dès que vous avez un lectorat, eh bien, ça va venir confirmer. Oui, est-ce que ce que j'ai voulu mettre dans ce bouquin, c'est là ou pas?
Alors ce livre, The Girls, est aujourd'hui publié partout dans le monde, pas simplement en France où vous êtes de passage aujourd'hui. Il est déjà sorti aux États-Unis d'ailleurs. Quel impact, quel écho? Même si vous regardez peu les réseaux sociaux. Comment a-t-il été reçu aux États-Unis?
Good.
Bah bien.
Trop bien.
Non.
Vous n'avez pas à réagir à ça. Non. Et le livre a aussi été acheté maintenant par le producteur de Millennium et de The Social Network, Scott Rudin. Est-ce que vous avez demandé à avoir un droit de regard sur l'adaptation? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous n'avez pas souhaité dans le roman, et notamment un côté un peu voyeuriste sur cette affaire qui a été très meurtrière, très sanglante, de l'assassinat de Sharon Tate et de ses amis dans cette villa de Los Angeles. Est-ce que vous avez demandé, vous, à ce que l'adaptation soit très fidèle au ton que vous avez donné et voulu donner dans votre roman?
Oui, en plus, c'est vraiment au cœur de mon livre, à mon avis. Donc, ça leur serait difficile de modifier cet aspect-là de mon livre. Mais par ailleurs, vous parliez de la sortie de mon livre aux États-Unis. Vous savez, quand il est publié, il ne vous appartient plus vraiment. Et voilà pourquoi je réussis à me détacher de tout ça, tout ce buzz et tout ce qui se passe autour du livre.
On va se quitter, Emma Klein, avec quelques notes de Helter Skelter, une musique des Beatles qui a à voir avec cette affaire.
When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Stop and a turn and a go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah. Do you, don't you want me to love you?
Emma Klein, il paraît que Charles Manson voyait dans cette musique des Beatles, dans ce titre, l'écho d'un sombre appel à faire la guerre à cette société. On le garde pour la bande originale de votre film, du prochain film qui sortira de l'adaptation de The Girls.
Actually, I hope it's not in the soundtrack because,
en fait, j'espère que ce
ne
sera pas dans la BO du film. Parce que pour moi, cette histoire, ça n'a rien à voir avec le meurtre, les meurtres commis par la bande de Manson. Ça traite de la société, de l'adolescence. Et d'ailleurs, j'ai essayé d'éviter autant que possible tous les marqueurs sociaux des années 60.
Un grand merci Emma Klein et merci à votre voix française, Evder, d'avoir participé à la Grande Table qui nous renvoie à la Table Ronde qui publie votre roman en cette rentrée, Emma Klein, The Girls. Un grand merci.